France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous demande quel est le point commun entre Alceste de Lully, Iphigénie en Tauride de Gluck, Faust de Gounod et les Mamelles de Tirésias de Poulenc, il y a de fortes chances que vous répondiez que ce sont des opéras français. C'est une bonne réponse. S'ajoute une réponse complémentaire, ce sont des opéras qu'a chanté François Leroux. Fort de cette expérience, le baryton a choisi de transmettre sa connaissance de ce répertoire avec la complicité de Romain Reynaldi. Qu'est-ce que l'opéra français, le style français, chanté en français? Autant de questions que se posent bien évidemment les jeunes chanteurs, mais aussi les mélomanes et les amateurs d'art lyrique. À travers une sélection de 25 opéras, François Leroux nous révèle les secrets de cet art délicat et singulier qu'il maîtrise si bien. L'opéra français, une question de style, de l'interprétation lyrique, avec François Leroux et Romain Reynaldi, qui vient de paraître chez Hermann.
Pourquoi diable ne le demandez-vous pas à ces femmes au lieu d'entrer chez moi sans crier gare? Je m'interroge.
Je vous demande mille pardons.
À votre âge, il n'y a pas grand mal à être un peu juste, comme il est naturel au mien de tenir à ses habitudes. La visite de monsieur votre oncle m'a fait moquer ma méridienne, et je m'étais tout à l'heure que assoupi, s'il faut tout dire. Mais que voulez-vous à Blanche?
Roger de Damas, qui sort d'ici, a dû repousser chemin de foi pour ne pas se trouver épais dans une grande masse de peuple.
Et bien qu'il la brûle, lorsque le vin est à dessous, on doit bien s'attendre à ce que le printemps échauffe un peu les têtes, tout cela passera.
Jean-Luc Viala, José Vandamme, l'orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par Kent Nagano. C'était le début des dialogues des Carmélites de Francis Poulenc. Bonjour François Leroux.
Bonjour Philippe.
Ce livre qui vient de paraître chez Hermann, l'Opéra français, une question de style, vous posez de nombreuses questions, effectivement, et vous partez d'un constat. Vous estimez que l'opéra français est souvent malmené, noyé dans un style international. C'est évidemment le constat d'un chanteur qui a passé des années sur les plateaux.
Oui, c'est souvent, ça a été très souvent mon constat, un petit peu frustré, disons, de voir que la préparation qui est si importante de l'opéra en amont de l'arrivée aux répétitions, puisqu'on a en gros entre 3 et 4 semaines de répétition avec le metteur en scène et en espérant qu'il soit là dès le début, le chef d'orchestre, on se retrouve quand même souvent avec un travail qui n'a pas été fait, pas tellement sur la prononciation du français, parce que ça n'a rien à voir la prononciation et le phrasé. Hein. Donc, enfin, si, ça a à voir, mais c'est quand même, on parle toujours de prononciation, mais c'est surtout le phrasé qui est important. Et je me suis rendu compte très très souvent, et en particulier sur les très grandes scènes, c'est ça le pire,
oui.
Que il fallait vraiment mettre ensemble des gens qui avaient des manières de chanter très différentes, mais pas seulement techniquement, mais aussi de conception de style.
Ouais.
Donc, voilà, au bout d'un moment, la frustration étant suffisamment importante, j'ai dit, bon, je vais en parler, mais plutôt que d'en parler comme ça, je vais m'atteler à en parler avec Romain Reynaldi, qui a donc enregistré des entretiens, puis après, on les a mis en forme ensemble.
Mais est-ce que, François Leroux, vous avez l'impression que cette difficulté à trouver un style homogène est rendue plus difficile par l'opéra français, par la langue française, que par d'autres styles?
Alors,
est-ce qu'il y a vraiment une spécificité, une difficulté propre au français?
Il y a une difficulté propre, absolument, et c'est même flagrant chez certains chanteurs français qui ont beaucoup de mal avec leur propre langue, parce que ils oublient que il y a eu dans le conservatoire, dans le temps, une classe de déclamation lyrique, hein, et que c'est de là que part tout le phrasé français chanté, que ce soit le récitatif, comme ce qu'on vient d'entendre des dialogues des Carmélites, qui mélangent quelques phrases, disons, de style arioso,
oui.
puis des phrases vraiment récitatives. Et ça, Poulenc, qui était un grand connaisseur de ça, il allait avec son grand-père à l'opéra comique très très souvent. Et les chanteurs français d'aujourd'hui pensent plutôt à... Je suis un peu méchant, hein, mais à... vulgariser, disons, la chose, c'est-à-dire le rapprocher d'un discours qui serait un discours tout à fait banal de prose quand on parle avec quelqu'un, et ce qui est d'abord versifié, parce que tout est versifié, et aussi donc, puisque c'est versifié, c'est octosyllabe, décasyllabe, hexasyllabe ou alexandrin, et donc il y a un rythme propre au vers. Et ça, on peut pas en vouloir aux chanteurs étrangers de ne pas le connaître totalement, sauf évidemment si on fait du Gluck ou du Alceste par exemple de Lully ou du Rameau, où là vraiment c'est flagrant, on entend la langue de l'époque. Mais dans le 19e siècle et même dans le 20e siècle, je trouve que ça c'est pas du tout enseigné, mais en amont de l'arrivée aux répétitions. Donc le travail finalement que le pauvre coach, puisqu'on appelle maintenant ça comme ça, et non plus chef de chant, s'occupe des chanteurs pour essayer d'amalgamer tout le monde pour un style qui est tant bien que mal sera quand même cohérent, eh bien il se retrouve à faire des rustines, quoi. Disons, c'est compliqué. Alors je ne vous parle pas de Péléas, où évidemment on se retrouve avec là un travail énorme, et souvent il m'est arrivé, par exemple, pour mon premier Péléas à Lyon en 1985, de devoir assumer toutes les représentations alors qu'on était en double distribution. Mais l'autre baryton qui devait chanter Péléas, hein, je peux même donner son nom si vous voulez, Thomas Sampson, est arrivé, mais il n'en savait pas une broque, parce qu'il a pensé, comme il est extrêmement doué et qu'il va très vite, qu'il allait pouvoir chanter Péléas comme il a chanté tous les autres rôles de sa carrière, et Dieu sait qu'il y en a. Eh ben non, c'était pas possible. Et heureusement, il s'en est rendu compte avant d'arriver à Lyon. Ce qui fait que, bon, j'ai été très heureux parce que j'ai fait toute la série. Et ça m'est arrivé plusieurs fois.
Ouais,
j'ai été plusieurs fois dans le rôle de Péléas, dans ce cas de figure. Et ça montrait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la préparation.
Alors, avant de détailler 25 opéras français, en tout cas en français, pas forcément composés par des Français, puisqu'il y a notamment Prokofiev et Gluck, bien évidemment, vous faites une rétrospective quand même sur qu'est-ce que le style français. Il y a un aperçu quand même historique du livret également, la typologie vocale, le parallèle entre bien chanter et bien dire, c'est ce que vous expliquez, oui, qui est vraiment si important dans ce style français.
Tout à fait, et ce que j'essaie de démontrer, c'est que les gens qui ont laissé vraiment une trace la plus importante dans les générations de chanteurs qui se sont succédés, ce sont tous des acteurs. Ce sont pas des chanteurs émetteurs de beaux sons, ce sont tous des grands acteurs ou des grands diseurs. Enfin, peut-être l'exemple pour le public est le plus flagrant, c'est Marie Gallimarié qui a été Célestine Gallimarié qui a été la première Carmen, mais aussi la première Mignon de Ambroise Thomas. Et on disait d'elle que sa voix était courte, mais que c'était vraiment une actrice remarquable. Et je trouve que, puisqu'on sait que c'est Bizet qui l'a choisie aux grandes dames d'un certain nombre de gens de l'opéra comique, on se dit, bon, ben voilà, c'est les compositeurs étaient les patrons dramaturges. C'était quand même eux qui décidaient. Et on peut en parler, ben, évidemment, pour Massenet, pour Gounod, même si Gounod a eu à passer sous les fourches caudines de certains directeurs en écrivant pour la femme du directeur, qui est une très bonne chanteuse. Enfin, bon. Mais ça montre bien quand même que à l'Opéra français, en tout cas, le public voulait comprendre, voulait suivre, voulait qu'on lui narre une histoire, alors qu'en Italie, par exemple, l'histoire, c'est bien, mais si le son est beau et si on fait des prouesses vocales, c'est mieux.
Il faut le surmonter. Quel prodige nouveau s'oppose à mon passage. Servons-nous de notre courage. Quels objets à mes yeux.
François Leroux dans le rôle de Tancrède, la grande écurie et la chambre du roi, dirigé par Jean-Claude de Malgoise. C'était un extrait du Tancrède d'André Campra. François Leroux, alors là, je pense que nos auditeurs ont pu se rendre compte, pas besoin d'avoir le livret, on comprend absolument tout. Donc vous êtes le parfait modèle de ce pourquoi vous militez. Alors, il y a effectivement la façon, le travail de l'interprète, mais il y a aussi la façon dont la musique est écrite. Elle est vraiment composée de façon à ce qu'on comprenne tout. On voit vraiment que c'est un élément consubstantiel au style français.
Absolument. Et comme je le disais tout à l'heure, les compositeurs sont déjà les propres dramaturges. Donc l'interprétation n'est pas mon Tancrède, c'est ça. C'est comment Campra a-t-il conçu Tancrède. Et c'est un travail humble, mais qui demande vraiment une longueur. Enfin, ça ne se trouve pas du premier coup. Il faut vraiment se mettre en chemin et puis petit à petit, on découvre quels moyens ont été employés, à quelle fin. Et c'est assez compliqué parce que on met souvent la charrue avant les bœufs. C'est ce que je dis d'ailleurs naïvement comme ça. On veut absolument voir déjà comment on va faire de sa propre interprétation quelque chose de nouveau ou quelque chose d'inédit. Alors que je ne pense pas que, en tout cas en répertoire classique, ce soit ça le but. Le but, c'est vraiment de servir le compositeur. Et pour le servir, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et il a quand même choisi ses librettistes et la manière de faire. Enfin, c'est très amusant. Dans le livre, je me suis amusé à mettre l'air de Marguerite de Fausse tel qu'il est sur le livret. Et ce qu'en a fait Gounod avec des tas de répétitions, ça n'a quasiment plus rien à voir. C'est très, très, très drôle. Enfin, je trouve ça amusant. Je suis sûr que si on demandait à quelqu'un qui connaît bien un opéra, est-ce que vous pouvez écrire le texte de tel air en respectant les vers? Je suis sûr que la majorité des gens n'y arriveraient pas.
Mais je crois que vous avez raison, en effet. François Leroux, est-ce que cette attention portée au texte et à son intelligibilité, c'est une constante que l'on peut noter depuis donc Lully jusqu'à Georges Boeuf, que vous mentionnez, hein, dans ce compositeur né en 1937, à travers ce panorama, donc il y a Hongroise, Campras, Berlioz, Gounod, Massenet, Bizet, Ravel, Debussy, Hersant. C'est une constante, ça, dans l'opéra français?
Oui, absolument. J'espère, en tout cas, que ça le restera, parce que... Ouais. Ça oblige le compositeur à comprendre la musicalité propre de la langue française. Alors, il y en a quelques-uns qui ont des difficultés, qui les avouent d'ailleurs. Mmh. Et j'essaye, à ma place, hein, de montrer que le fait d'être en collaboration avec souvent deux librettistes, c'est-à-dire un qui est le pitch master, comme on dirait aujourd'hui, et l'autre qui fait la versification,
oui, c'est ça, ouais.
Ça aide le compositeur aussi à comprendre ce qu'il veut vraiment comme alternance de choses rapides, de lentes ou dramatiques et comiques, etc. Alors que maintenant, quand on veut être, comme Berlioz l'a fait, hein, son propre maître et écrire, on se retrouve là devant des gros problèmes qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, la conception dramaturgique est une chose, mais la réalisation, c'en est une autre. C'est un petit peu comme un réalisateur de cinéma qui voudrait, lui aussi, écrire sa propre musique de film, quoi. Il sait ce qu'il veut, mais après l'affaire, c'est quelque chose de compliqué.
Mmh. François Leroux, vous évoquez l'influence du bel canto italien. Vous dites qu'on peut peut-être la repérer à partir de Gounod.
Oui.
Cette influence, est-ce qu'elle est... positive, négative, dans quel sens influence-t-elle l'opéra français?
Alors, je crois qu'elle est positive, bien sûr, parce que on sort des... Le XVIIIe siècle était arrivé à vraiment une confrontation assez grande entre le style tragique et le style léger ou comique. Et grâce à Gounod, on retrouve une sorte de... Je dirais pas naturel, parce que sinon je deviens rousseauiste et je dis beaucoup de mal de Jean-Jacques Rousseau dans le livre, donc je... Mais... je crois que c'est ce mélange de lyrisme presque simple et direct, mmh, avec quand même la conscience de la langue française et de la manière qu'elle a de se mouvoir au fur et à mesure de l'action, qui fait que Gounod fait bien la synthèse qu'il faut.
Thank you.
Véronique Jans, Les Arts Florissants, dirigé par William Christie, c'était un extrait de Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau. François Leroux, vous évoquez également dans ce livre, l'opéra français, une question de style qui vient de paraître chez Herman, quelques rencontres qui ont été déterminantes pour vous, des personnages qui ont vécu souvent très longtemps, je pense à Simone Féjar, oui. Irène Aïtoff oui. ou Jacques Janssen, oui. qui ont été tous quasiment centenaires, et que vous ont-ils apporté dans cette connaissance si intime que vous avez du style français?
Ce qui est commun aux trois, ouais. c'est une grande passion qui est restée vivace, mais vraiment jusqu'à la toute fin. C'était ouais. c'est incroyable de voir pour moi, c'était des gens, j'étais pas du tout impressionné de base. J'ai jamais, par exemple, je sais que j'ai pas mal de collègues qui peuvent dire mon maître, c'était, moi j'ai jamais vraiment eu de maître comme ça. J'ai eu de magnifiques professeurs mais ces rencontres-là, pour moi, c'était plutôt la flamme qu'ils transmettaient et aussi leur connaissance, mais vraiment à l'intérieur des œuvres. C'était pas du tout des gens qui se mettaient en avant en disant c'est comme ça et pas autrement. Mmh. En tout cas, avec Simone Féjar, par exemple, à qui je dois tellement, c'était jamais c'est comme ça et pas autrement. C'était si tu fais ça comme ça, alors ça ira pour telle personne, par exemple tel chef d'orchestre, mais par contre, si tu fais ça comme ça, c'est mieux pour tel chef d'orchestre. Ce qui permettait à chaque fois de se dire ah, donc il y a plusieurs moyens de faire. Mmh. Et quand elle m'a dit, alors qu'on était en plein Béatrice et Bénédicte de Berlioz, donc ça n'avait strictement rien à voir, qu'elle m'a dit François, vous avez pensé déjà à travailler Péléas ? J'ai fait non. J'ai jamais pensé parce que j'ai peur de ça. Elle me dit, mais oh, je trouve que vous avez tout ce qu'il faut. Venez, on va travailler. Et on a commencé par la scène qui fait peur à tous les barytons, c'est-à-dire l'acte 4, scène 4, la mort de Péléas. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais j'ai jamais chanté un la aigu de ma vie. Ni mais on s'en occupera plus tard, ça c'est pas très important. Et elle avait raison. C'est-à-dire que c'est l'ouvrage lui-même qui me l'a apporté. Parce qu'elle était, elle vous mettait dans une totale confiance. Alors, Irène Aïtoff, c'était un petit peu différent. Irène avait une rigueur absolument, mais magistrale, et il y avait des choses qui, péremptoires, disons.
Bon, Irène Aïtoff, la pianiste,
hein. Oui. Mais, c'était toujours fait, quand elle le montrait, ça paraissait tellement évident qu'on pouvait faire que suivre, quoi. C'était, et elle jouait tout. Péléas, elle le jouait par cœur aux répétitions. C'était quand même incroyable. Avec les numéros de mesure et tout, hein. C'était, elle m'a chanté une fois la bonne chanson de Fauré intégralement par cœur. C'est bon. Quant à Jacques, alors bon, lui, c'est autre chose. Ouais. Jacques Janssen, c'était
le grand
Péléas, voilà. Ouais. Et j'ai eu la chance de chanter plusieurs fois avec lui, pas Péléas évidemment, mais des opérettes, bon. Et lui, c'était ce qui était intéressant, c'était de voir comment un jeune homme qui avait été élève de Jouvet, qui avait pour lequel Jouvet espérait le faire entrer à la Comédie Française, qui voyait très bien dans les jeunes premiers genre Hippolyte dans Phèdre, des choses comme ça, et puis qui décide de devenir le Péléas de sa génération. Et quand il expliquait ça, c'était juste, on buvait du petit lait, quoi. C'est sur le plan historique, c'était passionnant.
Votre serviteur humble, bergère.
Votre servante, fondée.
Nous voilà donc débarrassés à jamais de cet enfant. Au talon méchant.
Vous m'en foutez,
plus de coussins pour son sommeil, plus de siège pour sa rêverie.
Encore, qui sait?
plus ne voudront plus de l'enfant.
Plus l'enfant. Tic-tic-tic,
je ne peux plus m'arrêter de sonner, je ne sais plus l'heure qu'il est, il m'a ôté mon balancier. J'ai d'affreuses douleurs de ventre, j'ai un courant d'air dans mon centre, et je commence à divaguer. Tic-tic-tic, laissez-moi au moins passer, que j'aille cacher ma honte, sonner ainsi à mon âge. Moi, qui s'en est de douces heures, heureux de dormir, heureux de veiller, heureux qui ramène celui qu'on attend, heureux béni, on naquit le méchant enfant. Peut-être que, s'il ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette demeure. Peut-être qu'aucun n'y fut jamais mort. Si j'avais pu continuer de sonner, toutes pareilles les unes aux autres, les heures. Ah, laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, le nez contre le mur.
Sophie Koch, José Vandamme et vous-même François Leroux dans le rôle de l'horloge comtoise de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Simon Rattle. C'était évidemment un extrait de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel. François Leroux, c'est un livre quand même assez militant, même si on a bien compris que vous dites qu'il n'y a pas une direction et une seule, mais vous vous adressez quand même à ce que vous espérez avoir des interprètes cultivés au service des œuvres. On voit que c'est vraiment ce qui vous motive, d'être au service des œuvres.
Oui, et ce que j'espère aussi, c'est que le livre va s'adresser un petit peu aussi au public, qui pourra y voir certaines, peut-être certaines clés d'interprétation qui ne sont pas forcément évidentes quand on a quelque chose de réalisé, bien fait, bien réalisé, ou même quand il y a quelque chose qui cloche et qu'on ne sait pas vraiment mettre le doigt sur ce qui cloche. J'espère pouvoir comme ça de m'adresser à la fois à des interprètes jeunes ou pas jeunes, et puis au public, au grand public, qui aurait envie de comprendre pourquoi l'opéra français, quelquefois, il n'est pas à la hauteur de ses attentes.
Mmh. Et la sélection des 25 œuvres que vous avez effectuées va justement dans ce sens alors.
Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu aussi montrer qu'il y avait une pérennité au cours des siècles dans ce style et la manière de phraser le français, et aussi l'amour de la langue elle-même qui fait que, par exemple là, Ravel a mis un temps fou à écrire L'Enfant et les Sortilèges. Il voulait absolument pas que Colette lui dise quoi que ce soit. C'est amusant. Mais le résultat, évidemment, quand elle l'a entendu, d'accord, il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est vraiment ces choses-là, le travail du compositeur rendu humblement, je pense que c'est vraiment notre tâche, et c'est une des tâches les plus compliquées, rester humble et prendre quand même en charge la chose.
Très bien, merci beaucoup François Leroux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, écrit avec la collaboration de Romain Reynaldi, l'opéra français Une question de style, qui vient de paraître chez Hermann. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Alain Joubert, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.